France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'une des nouvelles grandes voix françaises apparues ces dernières années, le cycle des grandes voix. C'est d'ailleurs dans ce cadre que vous chantez ce soir à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, des Adra ici. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Ce soir, vous chantez le programme de votre disque, en fait, Borgen, il vient de paraître. Vous serez ensuite jeudi à Bordeaux au Grand Théâtre et puis plus tard le 27 avril à Toulouse. C'est un disque autour des quatre derniers leaders de Richard Strauss auxquels se mêlent des mélodies, mélodies d'Henri Duparc et mélodies de Serge Rachmaninoff. Avant de parler de ce disque qui vient de paraître et qui est un choix de France Musique, elle s'adresse ici, le site du Théâtre des Champs-Élysées que je viens de regarder parle de votre ascension fulgurante. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, personne ne vous connaissait. Vous avez 29 ans. Vous avez remporté la révélation lyrique aux victoires de la musique classique en 2016. Cette année, vous êtes nommé dans la catégorie artiste lyrique. Quel regard vous portez sur ces dernières années?
Alors, je ne suis pas trop du genre à m'intéresser à tout ça. Je suis plutôt toujours en questionnement sur mon propre travail, sur ma technique de chant, etc. Mais ce serait mentir de dire que j'en suis pas très heureuse et ça me remplit ma vie de joie. Mais d'une certaine façon, je peux pas dire non plus que j'en sois surprise parce que depuis que je suis rentrée au CNSM,
le Conservatoire supérieur de Paris.
Voilà, exactement. J'avais en vue la troupe à Berlin et puis faire les concours internationaux, avoir une carrière internationale. Ça a toujours été dans mon aspiration. Donc, ce qui est merveilleux, c'est de voir ces aspirations s'accomplir. Mais j'ai toujours voulu cette ascension de cette façon.
Tout est allé très vite, trop vite parfois. Vous avez craint les faux pas?
Non, ce que j'ai craint, c'est l'angoisse extérieure, en fait. C'est plutôt les gens qui me faisaient peur avec leurs propres angoisses, qui me disaient « Ah, ça va trop vite, tu vas faire partie de ces gens qui vont réussir les 5 premières années et t'écraser, etc. » Alors que ce sont des peurs enfin, c'était pas les miennes, ça m'appartenait pas. Donc, ça a surtout été de me protéger de la peur extérieure, des on-dit.
C'est qui ces gens? C'est des profs, gens très... vos parents, des gens bienveillants.
C'est des gens bienveillants, c'est des gens que j'aime aussi. C'est pas spécialement des personnes que je trouve malhonnêtes ou malsaines. Mais disons qu'il y a une sorte de peur actuelle. Je sais pas si c'était comme ça avant, mais il y a une peur avec les jeunes chanteurs. On dit que ça va trop vite. Et j'ai un peu du mal avec cette notion. Je dois dire, je pense que, en fait, il faut aller à sa propre vitesse. Et quand c'est allé trop vite, j'ai su me donner l'espace nécessaire pour soit travailler suffisamment un rôle qui était peut-être légèrement au-dessus de mes moyens, ce qui est arrivé plusieurs fois. Quand j'ai chanté Traviata, même Elvire à Paris, j'étais 6 mois avant, j'étais pas capable de le chanter. Donc à chaque fois, il s'agit d'être aussi très clair avec soi-même pour se donner les moyens de réussir le défi qu'on s'est donné.
Elsa Draxi, vous avez les moyens de chanter Morgan, de chanter Richard Strauss, de chanter Rachmaninoff et de chanter Henri Duparc. C'est votre disque Morgan, il vient de sortir chez Erato. Un voyage musical qui commence par cette invitation au voyage, celle d'Henri Duparc, sur un texte de Charles Baudelaire.
Thank you.
Luxe, calme et volupté, invitation au voyage, le poème de Charles Baudelaire, mis en musique par Henri Duparc. C'est la toute première plage de votre album Morgan. Elsa Dreissy, notre invitée ce matin, il vient de paraître chez Erato, avec au piano Jonathan Ware, américain. Un disque qui croise les quatre derniers leaders de Richard Strauss, avec des mélodies d'Henri Duparc, donc, mais aussi de Rachmaninoff, qui croisent, car ce n'est pas dans la continuité, les quatre derniers leaders, ils sont un peu éparpillés dans le disque. C'est votre deuxième disque solo. Comment il est né, cet étonnant, très étonnant programme ?
Alors, il est né d'abord d'un vœu de faire un concert ensemble avec Jonathan. J'ai toujours voulu faire ces quatre derniers leaders au piano avant pour me les approprier.
Écrit pour l'orchestre.
Ah, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un de mes cycles préférés. Mais voilà, je savais qu'il fallait d'abord faire au piano avant de les aborder à l'orchestre. Donc, c'était ça le vœu principal. C'était de faire un programme avec les quatre derniers leaders de Strauss. Et puis, on trouvait que finalement, avec Duparc, ils avaient beaucoup d'affinités ensemble sur des textes aussi, l'humeur, au niveau de la poésie, comment ils mettent les mots en musique, la couleur aussi de la mélodie avec le piano. Donc on s'était dit pourquoi pas mélanger Duparc et Strauss. Et après, c'est rajouté à ces deux compositeurs, Rachmaninoff. Ça, c'était un choix de Jonathan. Je ne connaissais pas du tout ce cycle, l'opus 38. Et il a trouvé aussi que ça venait colorer l'univers de Strauss et Duparc, tout en gardant une identité propre, mais en se mariant extrêmement bien. Et j'ai trouvé que de mélanger l'allemand, le français et le russe, c'était une très belle idée vocale, déjà vocalement, aussi au niveau poétique. Et j'avais très envie de relever ce défi-là. Et on est parti de ce point de départ, ces trois compositeurs. On voulait six mélodies pour chaque compositeur. Et on a choisi Duparc. Ben, c'est assez simple parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc on a choisi surtout pour des points de vue sur un point de vue de choix musicaux, mais aussi de texte. Et Rachmaninoff, c'était le cycle entier. Et Strauss, du coup, ça s'est fait assez facilement. On a rajouté Malvern, qui était sa dernière mélodie, qui était censée faire partie, donc, du coup, des cinq derniers leaders, mais il n'a pas eu le temps de l'orchestrer. Et Morgan, qui venait donner la petite touche finale de lumière à ce programme.
Et qui donne aussi son titre à l'album qui vient de sortir, concert ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, jeudi à l'Opéra de Bordeaux et le 27 avril au Théâtre du Capitole de Toulouse. Il y a une progression aussi, enfin, il y a un début, un milieu, une fin, oui. C'est-à-dire peut-être un disque qui vaut mieux écouter dans sa continuité comme un récital.
Exactement, c'est-à-dire que c'est avant tout conçu comme un récital, pas comme un disque, et c'est venu après un objet, un album, mais le vœu avec Jonathan, c'était de recréer aussi un peu l'idée du récital, d'essayer de trouver une autre forme, une forme qui nous permet d'avoir une histoire avec cette personne qu'on suit, qui s'éveille à l'amour au printemps, avec cette douceur calme de l'été, puis vient le sommeil avec l'automne, avec les questionnements, avec la peur de perdre, avec la peur peut-être même de la mort. Et qu'est-ce que ça fait dans une vie de traverser ces émotions, d'oser vivre les choses tout en sachant que on peut les perdre et que ça peut se finir, mais quand même toujours oser aller vers le lendemain. Donc j'ai trouvé que c'était redécouvrir la forme de récital avec cette notion de voyage initiatique, d'invitation au voyage. J'aimais beaucoup à la fois l'expérience poétique que ça allait offrir et aussi musicale.
Elsa Dreissy, ces quatre derniers leaders de Richard Strauss dont vous parliez, c'est sans doute l'un des cycles de leaders de l'histoire de la musique du XXe siècle les plus connus. Mm-hmm. Vous disiez que vous vouliez les enregistrer avec piano plutôt qu'avec orchestre. Qu'est-ce qu'on entend de nouveau au piano dans la musique qu'on n'entend pas forcément dans la version orchestrale ?
Mais c'est complètement différent. Déjà, on peut se permettre des nuances, des douceurs, beaucoup de délicatesse qui ne sont pas possibles avec l'orchestre, puisque c'est un orchestre assez massif. Donc je pense qu'on entend beaucoup plus la subtilité des mots, la douceur aussi que peut dégager ces quatre derniers leaders, non pas le côté massif et grandiose.
Eh bien voici le premier de ces quatre derniers leaders, Frühling, mm-hmm. Le printemps qui arrivera. Thank you. Frühling, le premier des quatre derniers leaders de Richard Strauss, avec notre invité ce matin, Elsa Dreissy. Jonathan ou Jonathan Ware, pianiste américain, c'est un disque qui vient de paraître chez Serato et vous serez en récital ce soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, jeudi à l'Opéra de Bordeaux et en avril, le 27 avril exactement, au Théâtre du Capitole de Toulouse. On parlait de ce grand cycle des quatre derniers leaders de Richard Strauss. Vous avez, vous, des versions que, depuis tout petit, vous avez en tête, que vous écoutez, vous en avez réécouté. Il y a des voix qui vous marquent particulièrement dans ce répertoire?
Alors, enfant, c'était pas du tout le genre de répertoire que j'écoutais. J'étais complètement tournée vers l'opéra. Donc le lead même orchestral est venu beaucoup plus tard dans ma formation, si je puis dire. Donc je les ai découverts avec Nina Stemme, il y a un enregistrement avec Papano. J'ai découvert ce cycle, mais j'étais âgée, enfin j'avais 18-19 ans, donc ça arrivait. La découverte est arrivée assez tard dans ma vie et ça a été un coup de foudre. Après, je trouve qu'il y a des assez vieux enregistrements. J'ai plus les noms, malheureusement, des interprètes, mais où je trouve que dans Strauss, de manière générale, où on entend une finesse de la voix qu'on a perdu ces dernières années, parce qu'on donne Strauss pour des voix de plus en plus dramatiques, de plus en plus larges, avec une grande patte vocale. Et ça m'a fait du bien de retourner vers des enregistrements plus anciens, avec une voix peut-être un peu plus humble, un peu plus épurée, et où j'avais pas le fantasme d'imiter Nina Stemme, qui n'est pas du tout la voix... qui n'a pas du tout la voix que j'ai.
Elsa Dreissy, tout à l'heure, vous nous parliez de ce rôle dans Mozart que vous n'auriez pas pu chanter 6 mois avant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire que dans notre métier, on a des demandes pour faire des rôles, des fois 3, 4, 5 ans en avance. Y a personne qui sait ce qu'on va devenir et on peut seulement faire des paris sur le futur, se dire « Ah, ce rôle me plaît, j'imagine que dans 3 ans, si je travaille correctement ma technique, ben, je vais y arriver. » Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne fais pas partie de ces chanteurs qui se forment un répertoire de 4-5 rôles et qui, pendant 4-5 ans, les tournent et deviennent des spécialistes dans ce rôle-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout négatif, mais moi, je ne me sens pas du tout de cette affinité. Et donc, du coup, tous les rôles qu'on propose, c'est pratiquement toujours un défi que je suis obligée dans lequel je suis obligée de me projeter, me dire « Ok, ben, il va falloir travailler pour réussir ce rôle. »
Mais de toute façon, ce ne serait pas possible puisque vous êtes dans une troupe mm-hmm. Au Staatsoper de Berlin. Vous y êtes toujours, oui. Depuis un moment maintenant.
Oui, depuis 3 ans.
Qu'est-ce que vous y apprenez?
Alors, j'y apprends ce que c'est de travailler avec une équipe qu'on connaît, donc où on n'a pas besoin de... Enfin, c'est toujours. Moi, j'ai l'impression de toujours arriver et de continuer un travail qui a déjà été mis en place parce que je connais les chefs de chant, ils connaissent mon évolution aussi. Il n'y a pas à reprendre à zéro. Et j'y apprends aussi de la prise de risque parce que puisque c'est une maison dans laquelle je suis en ensemble, je suis beaucoup moins exposé et donc je peux me permettre d'accepter certains rôles peut-être que j'aurais pas accepté dans d'autres maisons d'opéra. Je pense notamment à Violetta dans La Traviata que j'ai chantée il y a 2 ans. Ce que j'aime, c'est que ça me donne un lieu, un
cadre.
Un cadre, oui, c'est ça, dans lequel je me sens en sécurité, dans le sens c'est des collègues, c'est des chefs de chant, c'est des pianistes que je connais. Mais dans lequel aussi je peux peut-être pousser mes limites de manière un peu plus forte que si je faisais mes débuts, par exemple, à la Scala ou au Metropolitan, où là, je n'irais peut-être pas forcément toujours dans cette direction de prise de risque.
Donc un confort et un risque en même temps.
Voilà, en fait, le confort qui me permet du coup plus de risques.
Vous y restez encore combien de temps?
Mais là, mon contrat est encore pour les 3 prochaines saisons et on verra comment ça se présente.
Vous avez déjà chanté Puccini là-bas?
J'ai pas encore chanté de Puccini. Je devais chanter Musetta au mois de décembre que pour des raisons X, Y, il nous a semblé mieux d'annuler parce qu'il y avait une trop grosse saison qui m'attendait. Mais on verra, j'aimerais bien faire Mimi un jour là-bas.
Vous avez déjà fait Manon au disque ? Vous vous souvenez ?
Bien sûr.
Un extrait de Manon, troisième acte de Manon Lescaut, une couelletrinée morbidée. Elsa Dreissy, c'est votre premier disque intitulé Miroir avec l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Michael Schoenwandt. Là, on vous entend, c'était il y a quelques années, cet enregistrement. On parlait de l'évolution de la voix technique, mais le timbre lui-même change. Vous ne chanteriez pas ça de la même façon aujourd'hui ?
Alors, je suis incapable de répondre à cette question. Je sais pas.
Et votre voix, elle évolue?
Ma voix évolue. Je trouve aussi que ma technique évolue. C'est surtout mes sensations intérieures. Mais je sais jamais comment j'aurais pu et comment je peux chanter un morceau. C'est toujours inscrit dans un présent et j'ai beaucoup de mal après à trouver des comparaisons ou sinon à me dire j'aurais dû le chanter comme ça. On verra. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de rechanter la Manon de Puccini, mais si je la rechante, on verra ce que ça va donner.
En juin, vous allez chanter Gilda, Rigoletto de Verdi. Ce sera à l'Opéra de Paris. Ça, c'est nouveau?
C'est nouveau, complètement.
C'est un rôle que vous êtes en train de travailler, qui vous fait peur ?
Alors, c'est un rôle qui me fait peur, oui, parce que c'est dans plutôt la partie très haute de ma voix. C'est la zone encore la plus inconfortable, dans le sens celle qu'il faut encore que j'apprivoise. Les coloratures très aiguës avec les contre-ré, contre-mi bémol, c'est pas... Je sais que pour beaucoup de sopranos, c'est un peu le confort, mais moi, j'ai pas développé ma voix dans ce sens-là particulièrement. Mais ça me donne très envie. En fait, je vais utiliser Gilda exactement pour apprivoiser cette partie de ma voix et pour me dire que maintenant c'est bon, je sais faire ça.
Rendez-vous en juin à Bastille, dans cette mise en scène de Klaus Guth. L'Opéra de Paris, d'ailleurs, ça fait quelques années qu'on vous y voit de plus en plus. Il y a eu Bellini, il y a eu un Puccini aussi, un petit rôle dans Giannis Kiki, Lauretta, avec ce célèbre air Omio Babino Caro. Exactement. Les prochaines saisons sont déjà signées. On va vous retrouver de plus en plus à Bastille, à Garnier.
Alors, je vais vous décevoir, mais avec le changement de direction, ça a été un peu chaotique quand même, il faut dire, l'Opéra de Paris. Et donc, ils viennent un peu tard. Donc, pour mes deux prochaines saisons, j'ai a priori pas de contrat à Paris, malheureusement, parce que j'adore chanter dans cette maison. Mais je suis absolument certaine que dans un futur, ça reviendra.
En tout cas, Traviata, c'est sûr. Vous me disiez que vous aviez un peu peur. Et vous avez un peu peur des victoires de la musique classique. Là, cette fois, vous êtes nommé le 21 février dans la catégorie artiste lyrique. C'est quelque chose que vous prenez comme ça. C'est important pour vous? Ça a été important, en tout cas en 2016.
Exactement. La révélation, c'était quelque chose de très important. Bien évidemment que d'être nommée aux Victoires de la Musique, c'est toujours un honneur et c'est toujours aussi important pour la carrière. Ça donne une visibilité, etc. Mais ça n'a je vais peut-être sembler horrible de dire ça, mais ça n'a plus autant d'importance pour moi, à mes yeux, que lorsqu'est venue les révélations.
Notre carrière est lancée. Le deuxième disque vient de sortir, Morgan. En concert ce soir, en récital avec Jonathan Ware au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Vous serez ensuite, après-demain, jeudi, à l'Opéra de Bordeaux. Le 27 avril, au Capitole de Toulouse. Et puis en juin, à l'Opéra Bastille, dans Gilda de Rigoletto. Il ne faut pas avoir peur. On finit avec, on a entendu Duparc, on a entendu Richard Strauss avec Rachmaninoff, une mélodie. Aou, ça veut dire quoi?
Aou, c'est un cri. Aou.
Vous avez pas mal. Hein.
Ben, la personne qui chante à ce moment-là, elle a mal au cœur, je dois le dire.
Merci de t'avoir ici. Aou, l'une des six mélodies de l'opus 38 de Sergueï Rachmaninov, la voix d'Elsa Dreissy avec Jonathan Ware au piano. C'est un disque intitulé Morgan. Il vient de paraître chez Erato. C'est un choix France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.